Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Le secrétaire d'État fait allusion à l'accusation de mainmise du patronat sur l'université.
Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Crise sanitaire, confinement, crise sociale. Qu'advient-il des plus démunis en temps de Covid-19 ? Avec François Chaillou d'Emmaüs Sans Pour Un de Tours, nous nous penchons sur la situation des familles sans papiers accompagnées par cette association et sur l'appel aux dons exceptionnel lancé par Emmaüs France. Cet Univox vous est proposé par Radio Campus Tours. Bonjour François Chaillou.
Bonjour Mélissa.
Vous êtes président de Emmaüs Sans Pour Un.
Absolument.
Alors, est-ce que vous voulez tout d'abord expliquer ce qu'est Emmaüs Sans Pour Un ? Donc, je suppose que vous faites partie du réseau Emmaüs France, mais peut-être qu'il y a quelques spécificités dans le cadre de Emmaüs Sans Pour Un.
Oui, alors, tout ce que vous dites est exact. Nous faisons effectivement partie du mouvement Emmaüs France, qui rassemble plus de 250 groupes sur l'ensemble du territoire national. Mais notre spécificité, c'est d'aider les familles qui sont sans abri pour leur donner un logement. Et comme notre nom l'indique, le principe, c'est que nous nous groupons à 100 personnes pour en loger une. Donc c'est un peu particulier par rapport au mouvement Emmaüs, c'est-à-dire que nous ne récupérons pas des objets que nous revendons dans des bric-à-brac ou dans des magasins de vente, mais nous comptons sur la solidarité de 100 personnes pour pouvoir donc financer un loyer et donner les moyens de vivre à une famille.
Alors est-ce que peut-être concrètement vous voulez expliquer alors combien d'argent est nécessaire, comment sont mis en place ces hébergements, à quel bailleur vous pouvez faire appel, comment les familles sont pas choisies, parce que malheureusement c'est pas le mot, mais enfin comment vous rencontrez les familles qui ont besoin d'un logement, quel est le réseau de partenaires peut-être que vous avez sur place ?
Alors, ça fait beaucoup de questions tout ça. Alors actuellement, nous hébergeons 10 familles. Alors, il se trouve que en France, il y a un filet social relativement étroit qui fait que de très nombreuses familles qui sont à la rue sont en fait des familles qui sont sans papier, qui sont des familles étrangères qui effectivement passent en dehors de toutes les mailles du filet et n'ont pas la possibilité d'être hébergées dans un centre d'hébergement d'urgence ou à l'hôtel et n'ont pas la possibilité non plus d'avoir un logement HLM. Donc, les 10 familles que nous logeons sont actuellement des personnes qui ne sont pas en situation régulière. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les accueillir. Chaque famille... le principe aussi que nous avons, c'est de loger une famille en finançant pour elle le loyer et ce qui va avec, hein, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les assurances, etc. Mais aussi, nous leur demandons de faire une activité d'utilité sociale, c'est-à-dire que nous comptons que sur les familles, elles puissent avoir une sorte de contrepartie au fait qu'on les loge en ayant une activité d'utilité sociale. Donc cette activité d'utilité sociale peut se faire soit dans un groupe Emmaüs, soit dans une autre association, comme par exemple le Secours Populaire ou la Banque Alimentaire. Et nous leur versons une indemnité de 300 euros mensuels pour effectivement contribuer à leur vie quotidienne. Parce que c'est des familles qui n'ont pas non plus aucune aide et qui n'ont pas le droit de travailler. Donc elles n'ont aucune ressource. Donc c'est pour ça qu'on leur donne le loyer plus une petite ressource qui est complémentaire à ce qu'ils peuvent obtenir des Restos du Cœur, par exemple, pour vivre. Donc, entre le loyer, les charges, l'électricité, plus cette indemnité de 300 euros, il faut à peu près 900 euros par mois pour loger une famille. Et donc, nous, ce que nous demandons aux 100 donateurs qui logent une famille, c'est de verser 5 euros par mois, de s'engager à verser 5 euros par mois pendant au moins 2 ans. Mais certains d'entre eux donnent plus, ce qui explique que si on fait 5 multiplié par 100, ça ne fait que 500 euros, et ça ne suffit pas pour loger une famille, puisqu'il faut en gros 850 à 900 euros. Mais beaucoup des donateurs donnent plus que 5 euros par mois, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à financer le logement de 10 familles.
Et alors, ces donateurs, est-ce que vous voulez dire un mot sur leur profil ? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà engagés dans des secteurs associatifs ? Est-ce que c'est des gens jeunes, un peu moins jeunes ? Ou peut-être qu'il n'y a pas de profil spécifique ?
Alors, on n'a pas de connaissances très pointues de nos donateurs. On accueille évidemment tous ceux qui veulent venir et on a un minimum seulement de... On a des contacts avec eux puisqu'on leur envoie une newsletter, mais on n'a pas fait d'enquête pour savoir qui ils étaient réellement. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi engagés ailleurs, mais notre volonté, c'est de dire que voilà, il faut laisser personne à nos portes, à la rue en Touraine, que c'est un vrai scandale. Et il nous semble que voilà, verser 5 euros par mois, c'est un petit engagement, et que quand on se met à 100 personnes, bien, ça change complètement le monde. Pour la plupart des gens, on leur demande que ça, de verser 5 euros par mois. S'ils peuvent faire plus, c'est bien. S'ils peuvent aussi donner un peu de leur temps pour rencontrer les familles, pour les aider à apprendre le français, pour trouver du travail, etc., c'est encore mieux. Chacun donne ce qu'il peut, chacun fait sa part, c'est ça qui est important.
Univox. Alors comment vous vous positionnez par rapport aux pouvoirs locaux ?
Ben, tout le monde est, je dois dire, très content de ce que nous faisons, parce qu'il y a une sorte de déni de réalité, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, la loi dit que ces personnes n'ont pas le droit d'être en France, il faut les expulser, etc. Et d'un autre côté, on ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'on les laisse en France sans droit. C'est-à-dire que c'est des familles qui, notamment pendant cette période de confinement, vivent terrorisées à l'idée de sortir. Ils ont extrêmement peur de se faire prendre par la police, etc. Donc, ils n'ont aucun droit. Ils sont cantonnés dans leur logement ou dans leur petit réseau. Et ils ont peur de tout, quoi. Les pouvoirs publics en particulier n'ont aucune intention de les arrêter, de les mettre dans un avion, de les renvoyer chez eux, parce que très souvent, c'est impossible. Leur pays d'accueil, on ne peut renvoyer quelqu'un dans son pays que si le pays l'accepte, et très souvent, le pays ne l'accepte pas. Deuxièmement, ça coûte très cher d'expulser quelqu'un, donc les pouvoirs publics n'ont aucune envie d'expulser ces personnes. Et donc, on est dans une sorte de déni, mais tout le monde est au courant qu'il y a en France entre 300 et 400 000 personnes qui sont absolument sans droit et voilà, qui restent comme ça. Et donc, si vous voulez, en Touraine, je crois pouvoir dire que les pouvoirs publics sont contents de ce que fait Emmaüs 100 pour 1, parce que ben, ça évite tout simplement qu'il y ait des gens qui meurent dans la rue, et ça, ce serait un scandale encore beaucoup plus important.
Alors, vous parliez du confinement, hein, pour ces personnes qui ont peur, comme vous le disiez, de sortir. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur la situation de ces familles pendant cette période de confinement ?
Alors, je pense que le confinement est encore plus dur à supporter pour ces familles-là. Donc, vous me posiez la question de savoir dans quel logement ils étaient tout à l'heure. En fait, nous avons un accord avec Tour Habitat, qui est la société d'HLM, enfin l'office d'HLM de Tours et de la métropole, qui met à notre disposition des logements et à l'intérieur duquel nous logeons les familles. Donc, nos familles sont bien logées correctement dans des logements qui sont parfaitement en état, parfaitement confortables. Donc, je veux dire, elles sont en situation défavorable par rapport à d'autres, mais elles sont dans un état psychologique qui est pire que tout le monde, à cause, ce que je vous disais, de cette crainte de sortir. Bon. En plus, elles ne maîtrisent pas forcément tout le français, elles ne sont pas forcément toutes équipées de matériel de communication, ce qui fait que, par exemple, pour les enfants, l'école est aussi une chose plus compliquée. Quand vous avez un simple téléphone portable pour communiquer à l'extérieur, c'est difficile de suivre des cours de français. Donc, elles ont plus de difficultés que les autres dans le confinement, à cause de ces conditions matérielles, à cause aussi de cette angoisse sur le fait que si je sors, je vais me faire reprendre par la police. En plus, certaines familles maîtrisent tellement mal le français qu'elles n'ont tout simplement pas compris quels étaient leurs droits. Alors, par exemple, je vous donne une anecdote, mais il y a une famille qui n'avait pas compris ce que ça voulait dire « quotidien ». Et donc, ils avaient vu sur l'attestation de sortie qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils sont restés enfermés dans leur logement sans s'autoriser à sortir pendant 3 semaines. Chercher la boule de l'autre côté.
Univox.
Et alors ces familles, comment elles mangent pendant ces temps de confinement, si les lieux où on peut avoir des denrées alimentaires quand on n'a pas d'argent sont fermés?
En fait, à Tours, pendant cette période de confinement, les services ont continué de fonctionner. Et donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a eu une solidarité extrêmement importante. Les associations se sont mobilisées, les services de l'État se sont mobilisés, la société civile s'est mobilisée. Il y a eu plein de bénévoles qui ont effectivement continué à faire fonctionner les services d'alimentation, de dons, par exemple, la TAD de Jeanne-Marie a continué à porter des... Enfin, ce n'était pas une cantine comme avant, mais ça a été des repas qu'on donnait individuellement. Donc, les familles ont continué de bénéficier de la banque alimentaire, des Restos du Cœur, de la table de Jeanne-Marie, etc. Et donc, à Tours, et ça, il faut voir que c'était vraiment formidable pendant cette période. Mais c'est vrai que, par exemple, avant, leurs enfants mangeaient à la cantine, là, ils ont été obligés de financer les repas, et donc ça crée des charges supplémentaires, c'est sûr.
Et pour la santé, alors, comment ces personnes ont accès aux soins ?
Pour les familles que nous connaissons, les 10 familles que nous connaissons bien, pour le coup, avec lesquelles on a des contacts très fréquents, il n'y a pas eu de difficultés. Hein. Bon, je pense que il est possible qu'il y ait eu des consultations médicales, mais ça s'est fait. Donc, chez nous, à Emeuil 100 pour 1, on a des référents pour chaque famille. Et donc, quand il y a une difficulté avec une famille, le référent accompagne pour trouver les bonnes passerelles avec les services nécessaires.
À votre avis, comment va se passer le déconfinement pour ces familles ? Qu'est-ce qui va arriver pour elles ? Qu'est-ce qui va être difficile ou plus facile, au contraire ?
Je ne sais pas trop s'il va y avoir quelque chose de plus facile. Hein. Je pense que le déconfinement va être encore plus difficile que le confinement. Parce que ce que je redoute le plus, si vous voulez, c'est que le déconfinement, il y a une sorte d'atterrissage et que finalement, il y a beaucoup d'activités économiques qui rencontrent des difficultés. Pendant le confinement, on a été un peu sous perfusion des aides de l'État et donc on ne s'est pas tellement rendu compte puisque chacun a pu être soit au chômage partiel, soit aux assurances maladie, etc. Mais au bout de quelques mois de déconfinement, l'économie, les règles de l'économie réelle vont reprendre leurs droits et je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Et ce que je crains, c'est que cette fois, ça soit la panique générale et que chacun doit se recentre sur ses difficultés personnelles. Ça va être « sauf qui peut ». Et dans ce contexte de « sauf qui peut », est-ce qu'on ne va pas oublier les invisibles et les plus précaires ?
Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère.
Pour ces familles, si vous voulez, je pense qu'elles ont, comme les familles modestes françaises, finalement, autant de difficultés à trouver du travail, autant de difficultés à se mouvoir dans la société, mais en plus, elles risquent d'être victimes de cet ostracisme qui fait que, voilà. Donc je redoute beaucoup plus, en fait, la période de déconfinement que le confinement.
Vous voulez dire, par exemple, que dans un contexte où il va y avoir de fortes difficultés sociales, on peut supposer aussi que ces personnes-là, elles puissent être accusées de diverses choses, considérées comme des gens qui sont venus en France pour profiter ou je ne sais quoi. Vous pensez qu'il peut y avoir, malheureusement, ce genre de considération dans un contexte de crise accrue ?
Au pire, oui, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. On a bien vu pendant le confinement des gens qui avaient tellement peur qu'ils voulaient que les soignants n'habitent pas à côté de chez eux. Donc je pense qu'il peut y avoir des réactions, comme vous dites, mais tout simplement que, par exemple, les financements ne soient pas dirigés vers les plus modestes. Hein. C'est quelque chose qu'on a vu des files d'attente de personnes qui commençaient à avoir faim, pas tellement dans notre département, mais dans la région parisienne, on a entendu dans la presse. Donc je redoute effectivement que, même s'il n'y a pas de manifestation raciste ou xénophobe, il peut y avoir tout simplement des gens qui soient laissés pour compte.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, pour que ça n'arrive pas ?
Il faut espérer que... je trouve que cette période de confinement a montré que les Français étaient quand même très solidaires, enfin, qu'il y avait des liens qui s'étaient créés, etc. Et donc, il faudra essayer de se souvenir de cette période pour continuer à prendre soin les uns des autres, pour continuer à vouloir être tous ensemble, à faire face tous ensemble à l'adversité, quoi. Et ne pas croire qu'on s'en tirera chacun pour soi. Enfin, je crois que ou on s'en tirera tous, ou on s'en sauvera pas. C'est pour ça que Moi, ce que j'espère pour les familles qu'on connaît, c'est qu'il y a une mesure exceptionnelle de régularisation qui leur permette notamment d'accéder au travail. La principale difficulté qu'ils ont, c'est de ne pas pouvoir travailler, donc de ne pas avoir de ressources pour leur famille. Alors que certains sont extrêmement compétents et extrêmement consciencieux et seraient un réel... On le voit bien dans certaines activités, hein, c'est une réelle chance pour la France. Donc, franchement, j'espère qu'il y aura une mesure exceptionnelle pour leur permettre de travailler à la sortie de ce confinement.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Au hasard, dans les familles que vous accompagnez, est-ce que vous voulez nous préciser, puisque vous parlez de personnes avec de hautes compétences, est-ce que vous voulez nous dire, par exemple, à quelles compétences vous pensez ?
On a par exemple dans les 10 familles, on en a deux qui sont des Albanais et qui sont menuisiers, enfin qui ne se connaissaient pas avant d'arriver ici, mais qui sont de fait tous les deux menuisiers et qui effectivement sont des gens extrêmement consciencieux, qui ont des compétences pour faire de la menuiserie sans problème, qui pourraient travailler dans le bâtiment, qui pourraient travailler vraiment utilement. On a une autre personne qui a une formation universitaire dans le domaine de l'électricité. Donc, je sais pas s'il a un diplôme d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pareil. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui est parfaitement adaptable. À l'inverse, on a des personnes qui, effectivement, étaient issues du milieu agricole. Donc, c'est des gens qui ont la main verte. Donc, qui sont de basse qualification, mais qui, effectivement, dans les travaux des champs, peuvent apporter une aide très appréciée. Enfin, donc, voilà, je trouve que c'est dommage de laisser vivre à nos portes, et parfois depuis très longtemps, hein, il y a des familles qui sont là depuis 5-6 ans, très longtemps, des gens à nos portes qui pourraient être utiles et qu'on place dans une zone de non-droit qui en quelque sorte, c'est une bombe. Et alors, bon, ça c'est la première génération, mais ils ont des enfants qui sont adolescents, qui maîtrisent très bien le français. Enfin, que vont devenir ces personnes ? Enfin, c'est pas envisageable, rien que pour un problème d'ordre public, de les laisser, de les laisser comme ça, c'est pas possible. Donc, alors, je sais bien pourquoi effectivement les pouvoirs publics sont dans une logique de déni. C'est parce qu'on craint d'avoir des émeutes parmi la population qui considéreraient que effectivement c'est injuste par rapport aux Français modestes. Mais je pense que c'est une petite population, enfin, c'est pas un grand nombre de personnes. Donc la France est tout à fait en mesure d'intégrer ces personnes-là.
Et alors, François Chailloux, vous avez relayé aussi, en tant qu'Emmaüs 100 pour 1, un appel national aux dons pour Emmaüs France. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Oui, alors ça c'est le mouvement Emmaüs, hein, auquel on appartient, qui a lancé cet appel à dons. Et là, c'était une question de survie pour les communautés et pour les entreprises d'insertion du mouvement. Dans le mouvement Emmaüs, c'est ce qui est le plus connu à l'extérieur, ce sont les communautés où habitent des compagnons d'Emmaüs. Hein, donc en Touraine, on a deux communautés, l'une à Èvre et l'autre à Chinon, qui hébergent à L2, 75 compagnons, donc c'est très important, et de leur travail. Donc c'est ça le projet d'Emmaüs, c'est de pas faire l'aumône à des personnes, mais au contraire de dire, eh bien je suis avec toi et ensemble on va pouvoir sortir des difficultés. Et donc ces 75 compagnons et des amis bénévoles qui sont à côté d'eux récupèrent des objets et les vendent dans leur magasin de vente. Simplement, pendant 2 mois, effectivement, il n'y a eu aucune vente, et donc par conséquent, aucune ressource. Et donc, il fallait compter sur les réserves des communautés pour pouvoir effectivement continuer d'acheter à manger, continuer de payer les loyers quand on avait des loyers, etc. Donc, globalement, en France, beaucoup de communautés ou beaucoup d'entreprises d'insertion du mouvement n'ont pas des réserves suffisantes pour attendre 2 mois. Donc certains ont un tout petit peu de réserves et vivent au jour le jour. C'est clair que s'il n'y avait pas eu ces dons, elles seraient disparues. Elles auraient tout simplement cessé leur activité. Pour des entreprises, elles auraient déposé leur bilan et elles n'auraient pas pu continuer l'accueil de personnes en difficulté comme elles le faisaient. Donc, si vous voulez, le fait de compenser cette absence de vente de matériel par, effectivement, une ressource de don, c'était pour elles une question de survie. En Touraine, c'est un peu particulier parce qu'en Touraine, on a des communautés qui sont en très, très solides et on avait le projet de construire un nouveau magasin de vente à Èvre, ce qui fait qu'on avait fait des réserves depuis une dizaine d'années, des réserves qui nous permettent d'avoir plusieurs mois d'activité devant nous, plusieurs mois sans activité devant nous. Donc en Touraine, on est solide, mais effectivement, au niveau national, il y a en gros la moitié des communautés qui, effectivement, n'auraient pas passé la fin mai s'il n'y avait pas eu cet appel à dons. Et donc, on remercie chaleureusement tous les donateurs qui se sont mobilisés. Il y a beaucoup de donateurs qui sont mobilisés. Ça montre que les Français tiennent à Emmaüs et que l'abbé Pierre est encore une figure qui parle aux Français. Donc, voilà, c'est... Pour ça, c'est merci beaucoup pour le fait d'avoir permis à Emmaüs de continuer sa mission.
Et alors, est-ce qu'on peut continuer à donner, à faire des dons ou pas, que ce soit pour votre association
ou pour... bien sûr. Alors, encore une fois, cet appel à dons est exceptionnel parce que c'est pour surmonter la crise de 2020. Ce n'est pas dans le projet d'Emmaüs, ce n'est pas dans son modèle. Hein. Son modèle, c'est de faire avec et de compter sur ses propres forces pour accompagner des personnes vers l'autonomie. Mais là, pendant le confinement et les quelques mois qui vont suivre, hein, pour surmonter cette difficulté, bien sûr, tous les dons sont accueillis avec bienveillance.
Merci François Chaillou. Est-ce que vous voulez rappeler peut-être un site internet ou un contact pour joindre Emmaüs 100 pour 1?
Alors, pour Emmaüs 100 pour 1, bien, il faut, sur le site internet, c'est Emmaüs 100 pour 1, il y a un site internet et vous pouvez effectivement adresser Emmaüs 100 pour 1 à toinadou.fr. Si prendre contact avec nous, c'est possible.
Cette Univox vous était proposée par Radio Campus Tours.